Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Capi Service. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien. Alors nous abordons à présent notre deuxième partie de l'émission, comment la RDC peut capitaliser l'accord de la COP15 sur la biodiversité. Eh bien, nous recevons Monsieur Guy Nkajemba, qui est le coordonnateur du groupe de travail climat RED+. Monsieur Guy Nkajemba, bonjour.
Bonjour, Jody.
Et bienvenue dans cette émission.
Merci beaucoup.
On aura également Baudouin Koutouka, directeur de l'ONG Partenariat pour le développement des communautés PARDEC en sigle. Vous avez des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94, écrivez-nous à service@radiocapi.net. Vous pouvez également poster vos préoccupations sur la page Facebook de l'émission Capi Service. Marcel Ngombo-Mbalakeba assure la coordination, Tati Mapoukou est à la réalisation, Alain Goy à la mise en onde, au micro, Jody Daniel Nkashama. Bienvenue à tous.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Bien, comment la RDC peut capitaliser l'accord ou les décisions de la COP 15 sur la biodiversité? Vous savez, un accord historique a été conclu par les pays du monde sous l'égide de la Chine pour enrayer la destruction de la biodiversité et des ressources indispensables à l'humanité. C'était à l'issue de la 15e édition de la Convention sur la diversité biologique à Montréal, au Canada. Lors de cette rencontre, la RDC avait fustigé le choix porté sur le Rwanda comme pays co-facilitateur de ces mécanismes de financement. Que doit faire la RDC pour capitaliser les décisions prises au cours de cette rencontre? Comment renforcer les mécanismes de financement visant la protection de la biodiversité en RDC? Monsieur Guy Nkajemba est le coordonnateur du groupe de travail climat RED+. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, la grande question est là. Comment capitaliser les acquis ou les décisions prises au cours de cette rencontre, la COP 15 sur la biodiversité?
Oui, vous savez, comme je disais, c'est autant de COP, c'est 15. Avant, pour les autres COP, on est à 27. Et que donc, il y a autant de COP que chaque fois qu'on arrive dans une COP, il y a toujours une décision historique, comme on appelle. Et nous pensons que on n'est pas encore au bout du tunnel. Il faut des mécanismes, il faut pas, on promet toujours, parler de 20, nous sommes maintenant à 20 milliards, et nous avons, il y a une promesse de 30%, de protéger 30% de l'espace mondial à travers les aires protégées. Tout ça c'est bien, il y a des bons élèves comme la RDC qui a des aires protégées et tout ça. Mais maintenant ici, on ne doit pas chaque fois se limiter à des grandes réunions où on ne met pas sur place un mécanisme. Le FEM existe, le fonds existe. Mais de manière pratique, comment est-ce que les pays pourront s'adresser à cette fenêtre-là pour avoir de moyens ou de ressources? J'ai vu qu'il y a beaucoup de résolutions qui sont prises, notamment le mécanisme de partage de bénéfices. Il y a les questions de pesticides et tout le reste. C'est très bien, très très bien quand on a un accord comme ça, quand on quitte la salle. Mais après, je pense qu'il y a un travail que nous devons faire au niveau du pays pour que c'est avoir un peu un task force qui est un peu, c'est un peu de voir un peu ce genre de décision de manière plus pratique. Et faire même des missions, c'est un peu de voir un peu comment on peut mettre ça de manière pratique pour qu'on ait ces retombées-là.
Nous avons en ligne M. Baudouin Koutouka, directeur de l'ONG Partenariat pour le développement des communautés, PARDEC. Baudouin Koutouka, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Bien, nous parlons de cet accord de la COP 15 sur la biodiversité. D'abord, aidez-nous à comprendre qu'est-ce qu'on entend par biodiversité.
Bon, la biodiversité, c'est un terme, normalement, écoutez, la biodiversité, c'est tout ce qui est vivant, hein, c'est tout ce que nous vivons, notre entourage, notre habitat, ce sont des humains, ce sont des animaux, des insectes, la nature, les forêts, ça fait partie de la biodiversité, ce sont des espèces vivantes. Donc, C'est ça, grosso modo, je dirais que c'est vraiment la protection. Parce qu'il ne faut pas dissocier surtout l'humain aussi. L'humain fait partie de la biodiversité. Et quand on parle de gestion des forêts, des communautés, on prend dans son ensemble tout ce qui vit. Donc, on a des espèces comme des animaux, des insectes, tout ce que tu peux imaginer, les plantes, ça fait partie, ça constitue l'espace vital. Et quand on se met à détruire cet espace, non seulement on détruit la partie naturelle, mais on détruit aussi la vie humaine. Mmh. Voilà ce que je peux vous dire en termes de biodiversité.
D'accord. La COP 15 s'est conclue à Montréal, au Canada, par un accord historique visant à protéger 30% des terres, des zones côtières et des eaux intérieures de la planète d'ici la fin de la décennie. Alors comment la RDC peut capitaliser tout ça?
Bon, écoutez, moi je pense d'abord il faut être fier de notre pays, de la RDC. Ici je parle vraiment en tant que Congolais. Nous sommes l'un des pays qui aujourd'hui est reconnu sur le plan mondial que la RDC c'est un pays qu'on ne peut pas négliger parce que la RDC détient tout ce qu'il faut pour assurer, pour réglementer, pour assurer, disons, pour contribuer à l'équilibre aussi bien climatique qu'en termes de la diversité biologique. Donc, comment on doit faire? Bon, la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Et je pense qu'avec la nouvelle administration, on sent quand même beaucoup de changements. Ça prend une bonne direction. Il faut maintenir ce cap-là. Mais la COP a pris fin, ça c'est vrai. Il faut voir maintenant l'après-COP. Comment on va mettre en place des mécanismes pour atteindre cet objectif-là? Ça prend aussi... Je n'appellerai pas une autre COP, mais ça prend au moins une réflexion à l'interne. Tous les acteurs doivent se mettre ensemble et regarder, se regarder en face pour trouver des solutions locales. Parce que des fois, les gens font beaucoup d'illusions. On a tendance à croire que c'est l'extérieur qui viendra nous aider. Non. Il faut commencer par les moyens, les ressources que nous avons à l'interne. Comment capitaliser sur ces ressources-là, parce que ça va de la vie de nos communautés, ça va de la vie du développement de notre pays. Si on détruit les premières victimes, c'est nous autres. Donc, partant de là, moi, ce que je dirais, c'est que maintenant qu'on est arrivé à la fin de la COP, maintenant qu'on connaît l'objectif qui est de 30-30, qu'est-ce que nous faisons? C'est sûr que le ministère de l'Environnement, qui a été présent à cette COP-là, prendra des initiatives, organisera des rencontres pour voir comment on peut capitaliser et aller de l'avant avec des solutions locales d'abord, avant d'espérer sur tout ce qui peut venir de l'extérieur.
Bien. Monsieur Guinka Djemba, localement, quelles sont les solutions qu'on peut apporter?
Les solutions, on en a déjà parce que nous avons suffisamment de patrimoine. Des patrimoines comme on appelle mondial, nous avons des espaces qui sont déjà qui sont dédiés comme patrimoine mondial. Mm-hmm. Donc nous sommes déjà je crois que chaque fois qu'on revient, on ne revient pas dans sur la question de savoir qu'est-ce qu'on va apporter parce que notre apport est déjà là. Tout le débat c'est la capitalisation. Nous avons tout ce qu'il y a, les aires protégées, nous avons des parcs nationaux, nous avons les forêts et nous avons tous ces écosystèmes là qui sont là et qui sont en train d'être capitalisés dans ce débat au niveau mondial. C'est vrai, quand on parle de 30%, on ne dit pas que chaque pays va prendre 1% ou 0,5%. Ça dépend des espaces. Il y aura une partie de la mer, une partie de terre. Et je suis sûr que le bassin du Congo et la RDC va prendre beaucoup plus que ça. Et quand on va arriver à la moyenne, on va se retrouver. Maintenant, à l'interne, il faut un travail, comme disait notre co-débatteur. Je crois qu'à l'interne, il faut une mobilisation. Ce qui nous manque souvent, on va dans des COP comme si on allait dans un match de football. Et qu'on suppose quand on a un champion, c'est fini, on va aller se reposer. Et pourtant, ce n'est pas ça. On va pratiquement à l'entraînement, on va apprendre pour revenir maintenant travailler. Et que donc, il faudrait qu'il y ait des réflexions, des task force qui réfléchissent clairement sur comment est-ce que les objectifs 30-30-30 pourront vraiment être utiles à la RDC en termes de mobilisation des sous, de financement, en termes de nos aires protégées, de nos parcs et tout ça. Et voilà.
Alors, quand on parle de la protection des terres, quels sont les problèmes auxquels les terres, si on peut les dire, font face?
Ah, les terres ont
les problèmes qui touchent souvent les terres.
Nous avons les érosions côtières, nous avons les inondations, nous avons tout ce qu'on a vu avec les éboulements, tout ce qu'on a vu la fois dernière. Donc, il y a tout ça, ça perturbe en fait, tu sais, tu vois donc l'équilibre mondial avec l'équilibre marine et tout ce qu'il y a comme les espèces qu'il y a dedans. C'est-à-dire la terre, il y a la terre, il y a les eaux. Et sur la terre, il y a tout, pratiquement une grande partie des écosystèmes. Il y a d'autres qui sont dans l'eau. Les poissons, les crevettes, c'est pas moi quoi, les algues et tout le reste.
Hein. On parle des zones côtières et des eaux intérieures. Etc.
Oui, c'est tout ça, la partie terrestre là. Où on voit les zones côtières où on peut avoir des érosions côtières, où on peut avoir des problèmes de glissement de terre et où qui peut perturber la vie des écosystèmes de certaines espèces, certains humains ou animaux. Et voilà toutes ces questions là.
Donc vous dites qu'au niveau interne, au niveau local, il y a déjà des solutions. On est déjà en train de protéger la biodiversité.
Mais quand vous suivez les discussions sur le bloc pétrolier, on parle quoi ? De patrimoine de l'UNESCO. Ce patrimoine de l'UNESCO, c'est des engagements que le pays a déjà pris dans le cadre de protéger, de contribuer. Donc il y a déjà des mécanismes, évidemment. L'objectif, c'est d'ajouter pour la RDC, d'accroître nos espaces en tenant compte, parce que là aussi, il y a un débat. Il y a un débat sur, quand on dit la biodiversité, c'est quoi? Ce sont les humains aussi. On ne peut pas protéger une forêt pour sacrifier les hommes. Et que donc, il y a aussi des réflexions à faire pour dire, si on veut augmenter les espaces à protéger, on les fait comment pour que les communautés ne puissent pas être victimes? Quel genre d'études d'impact on pourra faire pour qu'elles ne puissent pas être victimes de ce genre d'élargissement d'espaces à protéger?
Alors maintenant, la grande question reste le financement.
La grande question, c'est le financement. Je l'ai dit, les gens, on parle beaucoup, mais quand on arrive au financement, ça devient encore plus les effets. Toutes les COP, on le termine deux jours après. Parce que la vraie question n'a jamais été débattue au début. Et on finit par un accord historique, et on laisse les questions.
On laisse la grande question.
La question sur laquelle nous sommes toujours, que nous venons dans le judiciaire.
Oui.
Nous sommes arrivés à Sharm el-Sheikh avec des ambitions de 100 milliards de dollars. Concrètement, et nous avons passé tout notre temps en train de négocier jusqu'à ce qu'on se retrouve dans un accord historique avec les pertes et dommages. C'est une bonne chose, mais ces pertes et dommages-là, ça devient encore une théorie sur laquelle il faut encore travailler, chiffrer, revenir, et ainsi de suite. Maintenant ici, au moins avec la biodiversité, on sent qu'on est sorti de là avec un engagement de 20 à 30 milliards. 20 milliards à 30 milliards d'ici 2030, c'est une bonne chose. Maintenant, concrètement, quel est le suivi que nous faisons, que nos États font pour que nous puissions nous rassurer que ces fonds-là, on l'a créé et qu'il est déjà alimenté. Nous sommes déjà un peu contents parce que les États-Unis sont rentrés. Ils n'étaient pas dans la convention avant. Je crois qu'avec sa présence dans la convention, on pourra avoir des concrets avec les chiffres de l'argent.
Monsieur Baudouin Koutouka, votre réaction par rapport au financement? On peut bien avoir signé des accords, mais la grande partie reste le financement pour la mise en œuvre des projets. Monsieur Baudouin, vous êtes là? Voilà, je pense qu'on l'a perdu. On va tenter de le rappeler tout à l'heure. Le temps d'accueillir les auditeurs. Nous avons en ligne quelques auditeurs. Kachai de Kanyoka et héritier depuis Irumu. Kachai, bonjour.
Bonjour, monsieur Jodi Daniel Kachama et bonjour à monsieur le ministre.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, monsieur. De l'invité à ce jour. J'ai des petites questions que les gens tout à l'heure me demandent. On ne sait pas comprendre ce que c'est biodiversité en termes plus simples. De quoi? Et cela est constitué de quoi au juste? Bon. Deuxièmement, ça c'est un souci majeur de ce jour. Lorsqu'on veut confier une grande responsabilité à la biodiversité de la RDC au Rwanda, le pays agresseur. Connaissant bien que nous sommes victimes d'une guerre imposée par le Rwanda, et surtout que le Rwanda veut occuper tout l'espace est où il y a des minéraux, où il y a un espace riche en biodiversité. Maintenant, lorsqu'on veut que le Rwanda ait une main mise à l'est, monsieur, vous ne voyez pas que c'est une autre manière pour la communauté internationale de faire en sorte que les Rwandais puissent avoir toujours un mot à dire sur la République démocratique du Congo. Alors, en tout cas, tous les Congolais doivent se mobiliser pour dire non à cette décision-là de la communauté internationale à la COP du Canada, parce que nous ne pouvons pas partager les mêmes croyances avec le pays qui nous fait la guerre, le pays qui finance le groupe d'armée. Comment on peut donner cette confiance-là au Rwanda pour nous sentir que nous ne sommes victimes d'une guerre nous imposée par les Rwandais? Je vais nous donner des enfants tués, des gens se déplacent en masse. Maintenant, on veut que la COP de Montréal, que les Rwandais aient une même mise sur ce qui se passe avec le pays dans la deuxième. Monsieur Jody, son air sont tendus, la conscience est froissée, le cœur est vraiment épété par rapport à ça.
Merci, merci Kachai de Kanuka. On va accorder la parole à Héritier depuis Irumu. Bonjour Héritier.
Bonjour Jody, ça fait l'endroit Monsieur Jody.
On est là Héritier, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'accord de la COP 15 sur la diversité? Comment la RDC peut capitaliser tout cela?
Nous avons suivi avec beaucoup d'attention les propos que les États ont tenus. Bon, la question que je voudrais poser de savoir, d'abord, on a suivi tous les COP précédents. Mais il faut qu'ils ont succédé, à part tous ces COP ont servi. La deuxième question, vu la pression démographique de quelqu'un dans la RDC, alors, à quoi est-ce que la démographie, la pression démographique peut impacter à la forêt, peut-être, ou bien à nos parcs? Là, c'est voilà la deuxième question. Je voudrais passer un cri d'alarme au gouvernement pour le parc national de Virunga, au côté sud de Ludovo. Il y a un conflit entre le gouvernement et entre les écogardes et la population. On ne connaît plus la limite du parc de Virunga, du côté sud du territoire de Ludovo et la population. Donc la population ne connaît plus pour habiter parce que là, il y a le gouvernement qui veut que le parc soit là et puis aussi la population veut habiter dans ce même parc-là. Alors je voudrais que la population, le gouvernement puisse régler les problèmes. Voilà.
D'accord, merci. Merci Héritier depuis Irumu. Monsieur Baudouin, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, on vous entend très bien. Vous avez suivi les différentes préoccupations des auditeurs. Il y a l'un qui a dit « Mais à quoi a servi toutes les COP précédentes là? Qu'est-ce que la RDC a bénéficié de toutes ces rencontres-là ?»
Bon, écoutez, d'abord, j'aimerais préciser une chose hein, avant d'aller de l'avant. Je fais un petit pas en arrière. Vous avez posé la question très clairement de savoir quelles sont les solutions locales, par exemple. Je commence par là. Vous savez que notre pays a beaucoup de structures de la société civile, des organisations qui font un excellent travail. Moi, je pense qu'il va de l'intérêt des institutions, du gouvernement, de capitaliser sur toutes ces structures-là, des ONG qui sont actifs dans ce secteur, et voir comment on peut les soutenir et les accompagner. Donc, question de réorganisation et d'accompagnement de ces structures-là. Ça, c'est l'une des solutions. Et ils n'ont pas besoin de milliards, ces ONG locales. Ce sont des ONG internationales qui ont besoin de beaucoup d'argent, mais les autres, le travail qu'ils font. Mais je pense que le gouvernement est en mesure, localement, de trouver les moyens et de mettre à disposition de ces organisations-là. Ça, c'est un. De deux, j'ai entendu parler de Rwanda qui va co-présider. C'est faux. Ce sont des renseignements, des informations qui ne sont pas vraies. Il faut faire très très attention avec les médias sociaux. J'étais à la COP du début à la fin. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? La COP, les gens sont là, il y a des délégations qui travaillent. À la dernière minute, il y a ce qu'on appelle le segment ministériel, c'est le segment de haut niveau, où les ministres arrivent pour discuter sur tout ce qui a été préparé afin de prendre des décisions. Alors cette fois, quand on est arrivé à ce segment-là, il y avait deux réunions. Et dans une des réunions, il fallait trouver un co-facilitateur. Et c'était un Allemand qui était désigné, je crois. Alors là, on a désigné une femme, donc la ministre rwandaise. Elle était là, non pas pour co-présider les comités de financement, c'est pour cette réunion. D'ailleurs, elle n'a même pas dit, elle est restée muette. Et là, quand Madame Bazaïba est arrivée, je vous assure qu'on aime cette femme ou pas, il faut reconnaître Madame S. Bazaïba a tenu des propos excellent, on a apprécié. En face, elle s'est adressée pour dénoncer que tout ce qui va se dire ici ne concerne pas la RDC pour telle raison. Donc, après cette réunion, c'était fini. Donc, dans la décision finale, l'adoption des cadres de financement, c'est pas le Rwanda qui est là comme co-facilitateur, comme co-président. Ça, c'est faux. Ce sont des médias sociaux, ce sont des gens qui racontent qu'on aime, qu'on soit en opposition ou pas, mais il faut être vraiment très, très honnête. Mm-hmm. La dame, notre premier ministre de la RDC, parce que je suis congolais après tout, a joué sa carte, il faut la féliciter, elle a tapé sur la table et ça s'arrête là.
Alors, Baudouin, en tout cas, votre structure a été a pris part à ces assises. Relatez-nous un peu la manière dont la RDC a présenté sa biodiversité aux autres nations du monde.
Ok. La RDC, bon, tu sais, il y a tout un travail qui a été fait en amont. Nous, en tant qu'organisme canadien de coopération internationale, et l'avantage que nous avons eu, parce que moi-même, je suis d'origine congolaise, donc j'ai orienté tous les travaux pour l'intérêt de la RDC. Rappelez-vous, déjà il y a quelques mois, on avait mené une réflexion. On a mis en place deux cellules, une cellule congolaise, une cellule canadienne, avec des experts de haut niveau qui ont réfléchi et on a produit un rapport qui s'appelle « Deuxième son des cloches ». Et ce rapport a été donné au gouvernement. Donc, ça a été déjà un premier pas de collaboration avec le ministère de l'Environnement. Et quand on a commencé à travailler sur la COP, on a gardé aussi contact. C'est vrai que bon, il y a eu des ratés, des communications qui ont manqué. On ne va pas tout dire ici. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a gardé quand même cette relation avec le ministère. Et nous avons, lors de la COP, trois grands événements. On a eu une première réunion, présentation, conférence en dehors de Montréal, dans la ville de Rimouski, où on a travaillé avec l'institution d'enseignement, parce que cette institution forme des cadres dans le domaine de la foresterie, des technologues forestiers. Or, le pays a une crise. On n'a pas assez de technologues ou des ingénieurs forestiers. Donc, c'était pour nous de trouver le mécanisme pour mettre en contact le ministère et cette institution-là. Les ententes vont être signées dans les jours qui viennent. Les deux autres activités se sont passées à Montréal. Il y a eu une conférence qui a été précédée par un film sur les écrans géants qui a été balancé, montré dans des métros partout. Et ce film-là, je dois ici profiter de votre antenne pour remercier Utex Africa avec son président Jean-Philippe qui a une fondation Bilimbo. C'est un film qui s'appelle SOS, Planète Congo. Ce film, les gens ont suivi et les gens ont découvert la RDC à travers cette image-là. Et nous avons balancé aussi la vidéo d'un député de l'Union européenne qui, lors du Parlement, a adressé un message pour dénoncer tout ce qui se passe en RDC. Donc, c'était déjà un message qui a balayé les médias ici. Deuxième niveau, nous avons eu la chance d'avoir un journaliste qui est venu par ses propres moyens, Alfredo de Enviro News, qui a posé une question au secrétaire général des Nations Unies, qui était dans l'embarras de réponse, et ça fait aussi le tour du monde. Et troisième coup, c'est celle que Madame Bazaïba est venue frapper encore les marteaux sur le cou pour dénoncer ce genre de comportement dans une réunion où on avait devant la ministre rwandaise, elle a déclaré, elle a lancé l'annonce que tout ce qu'on va dire ici ne va pas concerner la RDC. Je pense que ces trois éléments ont bien montré la participation de la RDC à ce COP sans aller dans le détail inutile, mais au moins on va capitaliser sur les trois éléments dont je vais te mentionner.
D'accord. Alors, M. Guinka, on peut comprendre par là que la RDC était bien présente à ces assises.
Oui, ce dernier temps, la RDC est très bien présente. Hein. Avec l'actuel gouvernement, ils sont en train de s'organiser pour être plus présente que normalement. Mais le travail à faire, comme j'ai dit, c'est un travail en amont. Je crois qu'il faut encore une fois faire des efforts pour que la présence ne soit pas une présence protocolaire et être surpris par des événements comme celle de la dame rwandaise. Le COP doit se préparer en amont. Ce que nous constatons ici, c'est que l'ensemble des activités liées à toutes ces questions-là sont faites par les ministres et un certain nombre de ses collègues ils se déplacent partout là, ils ont des informations et ils attendent amener tout le monde à la fin. Après, la COP, ce n'est qu'une fin d'un processus. Ça ne se prépare pas les jours où on arrive au Canada ou à Montréal ou au Québec. Et tout le temps là qu'on apprend que le ministre est parti, on le retrouve, c'est pas moi, au Japon ou quelque part, en train de parler des questions de biodiversité. Il parle avec qui, avec quels experts, avec quels acteurs de la société civile, pour qu'ensemble nous puissions cheminer de la même manière et nous retrouver ensemble avec le même message. Donc je crois que ce problème-là se pose encore, où j'ai posé encore la question de manière plus chaude à Charles Meshek, à la VPM, pour dire, nous sommes dans un même pays, nous sommes des parties prenantes. Vous aviez promis que nous allions tous ensemble faire ce débat de cette question et de ces solutions, une question de participation de tout le monde. Alors il ne faudrait pas que nous soyons surpris chaque fois que nous arrivons à la COP, à la fin, on commence à chercher les agendas, chacun fait ses recherches, les gens viennent à un ordre dispersé, on commence, vous trouvez quelqu'un en cours de route, sur la route à Montréal, là, tu dis tu vas où, non, on vient, ou tu commences à appeler les gens au téléphone, nous sommes ici. Non, ce sont des choses qu'on peut préparer de manière un peu plus systématique et avoir tous les agendas de négociation préliminaires qui se font, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui se font de manière préliminaire dans d'autres pays, où carrément c'est une chasse gardée au niveau de c'est pas moi, des ministères ou des services. Et après, tous les participants n'ont pas la même vision de l'atterrissage à la COP.
Voilà. Bien, on va accueillir Bernard de Manono et Charles de Lumbashi. Bernard, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama et aussi à tous les auditeurs de la radio.
Quelle est votre question, Bernard?
Oui, moi j'aimerais poser la première question à l'invité. Pourquoi, si on parle de la RDC, on voit que tous ceux qu'on peut citer se retrouvent dans notre pays, les forêts, tout ce qu'il a énuméré qui consiste à la biodiversité. Mais pourquoi on n'arrive pas à organiser aussi les COP pour que tout le monde sache que c'est ici où nous sommes complets? C'est ça ma première question. Et la deuxième, pourquoi s'il y a quelques réunions parfois dans notre pays, nous sommes en conflit avec le Rwanda, mais la communauté internationale nous oblige toujours d'aller aux pays voisins que nous ne collaborons pas à chaque fois? C'est ce que je voulais poser à notre invité.
Bien, merci pour la question. Charles de Lumbashi, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à l'invité. Vraiment, il n'y a pas à espérer, monsieur Jody. Il n'y a pas à capitaliser dans ce pays. Peut-être que l'unique moyen, c'est de créer l'homme politique congolais. Parce que nous nous rendons compte qu'ils profitent de ce retrouvaille-là pour aller remplir rien que leur propre poche.
Mais Charles, pourquoi vous êtes si pessimiste?
Monsieur Jody, ce sont des choses que nous vivons qui arrivent à nous énerver. On est aujourd'hui à la COP 15, là, je pense. Mais toutes les autres COP, les bilans restent chaotiques, très mitigés. Voilà pourquoi nous devenons pessimistes dans ces pays-ci. Moi, je pense, peut-être qu'il faut recréer l'homme congolais, les politiciens congolais en particulier. Et ça sera un travail de longue haleine. Nous n'allons pas espérer dans 20, 30 ans. Peut-être qu'après la disparition de toute cette génération, là, on peut quand même espérer. Parce que, au sein des COP, mais zéro réalisation. Mais, quoi, entre nous soit dit, est-ce que c'est sur cette terre qu'on se pose des questions? Et puis là, on fait laisser là décoller Maillard avec les Rwandais. Rappelez-vous même lors de la francophonie, quand les Rwandais voulaient quitter la francophonie, on a confié le secrétariat à Solange Lushikuwabo. Alors, nous comprenons que c'est toujours des clichés qui changent de couleur dans des angles différents. Voilà pourquoi moi je solliciterai à ce que l'on puisse même pas participer à aucune COP. Parce que il n'y a pas quoi ça, des réalités, il n'y a pas des avancées significatives. Voilà un peu, monsieur Jody.
Merci Charles de Lumbashi. Monsieur Baudouin Koutouka, à vous la parole.
Ok, merci, je comprends très très bien la préoccupation des auditeurs. J'aimerais quand même dire ici, moi, je vis au Canada, ça fait plus de 24 ans, je ne suis plus rentré au pays. Mais ce que j'ai constaté, il y a une grande différence en termes de la diplomatie entre le nouveau gouvernement que vous avez et l'ancien. Il y a des années, depuis quelques années, vraiment, on sentait des faiblesses, on ne parlait même pas de la RDC, où on parlait toujours des mauvais côtés.
Mais depuis un certain temps, nous qui vivons à l'étranger, on est en contact avec des institutions, on commence à sentir un langage différent. C'est vrai que peut-être vous ne réalisez pas localement, mais il y a déjà sur le plan diplomatique, il y a beaucoup d'efforts. Il faut vraiment féliciter le gouvernement que vous avez actuellement. Alors, ça c'est un gain. On comprend. La pauvreté, c'est une question. On ne peut pas résoudre ça d'un bâton magique, mais il faut travailler. Et là, déjà, le gouvernement s'est mis sur une très bonne voie avec une forte campagne diplomatique. Il faut vraiment associer. Vous savez la différence, les Rwandais avaient beaucoup misé sur le lobbying. Donc, il a utilisé des ressources du pays, les connexions, les Rwandais de l'étranger qui avaient de bonnes positions pour former cette classe-là, qui déjà, avant des événements, anticipaient, faisaient des contacts, donc des pressions de lobbying. Et nous, le gouvernement doit comprendre que le lobbyisme, c'est une action qui porte fruit. Donc, il faut commencer déjà à travailler très fort. Et moi, je peux vous dire, c'est déjà un pas, une bonne direction. Je ne pouvais pas imaginer que la communication avec le ministère de l'Environnement, avec nous autres ici, qui sommes ici, soit fluide. Aujourd'hui, je vous parle, par exemple, d'une démarche qui est en train d'être mise en place. Si on arrive à conclure cette entente entre cette institution d'enseignement supérieur qui forme des cadres de haut niveau de forestiers pour gérer des forêts, je vous dis en passant qu'aujourd'hui, qui gère nos forêts? Quand on donne les statistiques, on a 160 millions d'hectares. Qui a fait des inventaires? Vous allez voir, la plupart des gens qui se disent de forestiers sont des agronomes, sont des spécialistes en développement rural, mais qui ne sont pas des vrais forestiers. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a quelques années. Mais avec ce ministère de l'Environnement, on est en train de prendre ce cap-là.
Monsieur Baudouin.
Un gain majeur.
Oui, Monsieur Baudouin, il y a Monsieur Ginkajema qui a dit tout à l'heure qu'il est toujours préférable, avant d'aller à de telles rencontres, d'associer les organisations de la société civile, d'avoir des discussions en amont et bien préparer, s'informer sur les différentes rencontres qu'il y aura, et puis se préparer en amont. Alors maintenant que la rencontre a déjà eu lieu, maintenant il faut capitaliser avec cet accord-là. Est-ce que du point de vue financement, qu'est-ce que la RDC va concrètement bénéficier de tout cela?
Bon, la RDC, c'est comme d'habitude, hein, dans le cadre, quand on a de conventions comme ça, on met en place des cadres de financement, on n'exclut personne. Mais sauf qu'il y a des paramètres. Je vous donne l'exemple avec le fonds qui a été le flux financier international sur la protection des forêts entre 2008 et 2017. Ces fonds-là ont été répartis de façon inégale, où l'Indonésie, disons l'Asie du Sud-Est, avait eu 55%, l'Amazonie a eu 44% et le bassin du fleuve Congo 11%. Et dans ce 11%, c'est le Gabon qui a eu le gros morceau. Mais maintenant, pourquoi cette région a eu peu d'argent? Moi, j'ai posé la question à un membre du GIEC qui m'a dit « Nous avons beaucoup de difficultés à trouver des données fiables pour cette région-là. » Donc, vous voyez, c'est déjà un problème au niveau des statistiques, des informations, des données. Il faut travailler sur cet axe-là, montrer... Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple seulement. Vous dites, vous avez 160 millions d'hectares de forêt. Qui a fait des inventaires? Ces statistiques datent de quelle année? Qui avait conduit? Et pourtant, la réalité pour la RDC, on n'a pas d'inventaire forestier de vrai à date. Je me rappelle que la coopération canadienne vers les années 80 avait réalisé des inventaires dans les forêts de Mayombe, dans le Bas-Congo. Mais depuis ce temps, il n'y a pas vraiment de bons inventaires qui ont été faits pour nos forêts. Alors ça, c'est un problème. Comment les gens vont investir? Il faut travailler sur des paramètres qu'il faut prendre en considération. Et surtout, quel que soit le montant, les millions qu'on peut miroiter, que la communauté internationale, ça n'atterrit pas comme... d'un bâton magique au pays. On a vu les 100 milliards qu'on doit mobiliser chaque année. On n'est pas capable d'atteindre cet objectif-là, de mettre de l'argent à la disposition des pays. Moi, je pense, j'insiste encore, qu'il faut commencer par des ressources internes. Par ces ressources, il faut commencer à réduire même le train de vie de vos institutions. Vous avez des institutions qui sont... avec des institutions ici, je vois des salaires que les gens touchent. mais qui sont au-delà des cadres normaux. Donc ça, ce sont des mesures qu'il faut commencer à mettre en place, réviser les trains de vie, s'il faut couper même des masses salariales de ceux qui gagnent. Si c'est vrai, je ne sais pas, on voit des images qui sillonnent, où on voit les députés en train de dormir avec, en dessous, c'est écrit $21,000. Est-ce que c'est vrai, un député gagne $21,000 américains? Si c'est vrai, ça c'est la folie, je peux vous le dire. C'est la folie parce que le salaire du premier ministre canadien, c'est $17,000 canadiens. Et quand tu mets en US, tu tombes autour de $14,000. Alors, comment un député congolais va gagner plus que le premier ministre canadien qui est un pays riche? Alors, vous voyez déjà ces écarts-là, ce sont des messages qu'on envoie. Tout ce que vous dites dans les médias sociaux, tout ce que vous balancez, sachez que il y a le monde qui voit, qui lise, qui entend, qui écoute. Alors, commençons par travailler à l'interne, mobilisons les ressources internes, soutenons les structures locales qui sont très engagées, très actives au niveau de gestion des terroirs, au niveau de lutte contre le changement climatique. Il y a le moyen et on peut s'en sortir sans courir, sans pleurer devant cette communauté internationale qui joue un sale jeu. Voilà ce que je peux vous dire.
Bien. Baudouin Koutouka, directeur de l'ONG Partenariat pour le développement des communautés, PARDEC, depuis le Canada. Merci et à la prochaine.
Merci.
Bien, on va accueillir quelques auditeurs, Orsène de Lumbashi et Justin Kalabia de Bounia. Orsène, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Merci beaucoup, monsieur Jody, pour la parole. Je n'ai pas beaucoup à dire, je passe directement à mes trois petites questions. La première question était celle de savoir quel est le niveau de la biodiversité en RDC. Et la deuxième question, pourquoi agir en faveur de la biodiversité. Et voilà, merci beaucoup. Et la troisième question pour finir, comment lutter contre la perte de la biodiversité? Je dis et je vous remercie.
Bien, Justin Kalabia de Bounia, bonjour.
Bonjour monsieur Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs aimés, je le meilleur, tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question par rapport à l'accord de la COP15 sur la biodiversité?
Oui, merci beaucoup, monsieur Jody, pour la pertinence de ce sujet. Hein. Oui, néanmoins, moi, j'encourage madame Eve Bazaïba, depuis qu'elle est arrivée à la tête de cette institution. Voyons, en tout cas, il y a des signaux positifs. Oui, à ce qui concerne la COP 17, monsieur Jody,
la COP 15. Biodiversité.
Oui, la COP 15 de la biodiversité. Nous pensons que mes prédécesseurs l'ont dit. Dans notre pays, nous avons beaucoup d'experts en matière théorique, mais pour la pratique, c'est zéro. Et à ce qui se passe beaucoup à la tête, monsieur, aujourd'hui, depuis que nous avions commencé à la COP 1, la COP 2, jusqu'à la COP 15 maintenant, la RDC a déjà gagné quoi. Donc, je ne sais pas, peut-être l'invité qui aura la réponse. Deuxième, monsieur, aujourd'hui, après l'évaluation de cette COP, est-ce qu'il y aura un avantage pour une Cagnon qui la RDC gagnera? Et pour terminer, monsieur, aujourd'hui, c'est que tout ce que nous disons ici, ce n'est que... Bon, qu'est-ce que je vais dire? Ce n'est que... Donc, ce n'est qu'une théorie, ce n'est qu'une parole, comme nous avons des experts, comme je l'avais dit tantôt.
D'accord. Qu'est-ce que la RDC a gagné dans tout ça? Y a-t-il une cagnotte? Merci, on a compris votre préoccupation. Claudia de Colézy, bonjour.
Bonjour, monsieur Daniel. Bonjour, à l'invité.
On vous écoute.
Oui, en fait, ma préoccupation concerne la protection de notre biodiversité. On dirait que nous ne sommes pas vraiment conscients que nous devons protéger notre biodiversité. Qu'est-ce que nous devons réellement faire? Parce que je donne un exemple. Ici, à Colézy, on a le fleuve là-bas qui a provisionné il y a plusieurs années la ville de Colézy en ressources halieutiques. Mais pour le moment, c'est... Les poissons sont vraiment en voie de disparition. Même la sardine, il n'y a plus en grande quantité comme il y a de cela plusieurs années. Qu'est-ce que nous devons réellement faire? Parce que nous devons aussi nous efforcer pour protéger notre biodiversité avec le fond que nous avons dans notre pays. Et notre préoccupation, en fait, après les séances de Glasgow, les donateurs s'étaient engagés à financer la protection et la gestion des forêts du bassin du Congo à hauteur de $1,5 milliard. Et je voulais savoir si ce financement avait déjà été effectué. Merci.
Bien, merci. Esaïe, vous êtes à Mouéka. Bonjour. Esaïe, vous êtes là? Non, il n'est plus là. Monsieur Guy Kanjemba.
Oui, allô, allô.
Ah, il est là. Oui, allô. On vous écoute, Esaïe.
Oui, j'avais une question pour demander à l'invité qui est sur le plateau. Allô?
Oui, allez-y.
Oui, je ne sais pas ce qu'il est en train de dire là pour capitaliser au moins les affaires du pays. Et ça nécessite les moyens extérieurs ou bien avec les moyens locaux, cela peut tenir. Et aussi, j'avais une soutenance, je soutiens l'idée de celui qui nous a appelé depuis le Pérou vraiment est allé loin. Le problème qui me met, c'est quoi? Ici, il n'y a pas les gens qui ont vraiment la volonté dans notre pays ici. Puisque si nous vivions ici dans, au Congo, il y a beaucoup de facteurs de moyens. Maintenant, ces gens-là financent les élections à l'étranger. Ils ne veulent pas dépenser leurs moyens pour notre pays ici. Si vous écoutez en France, il y a eu ici ce Moïse Katoum qui a soutenu les élections là-bas. Il a dépensé ses moyens. Au Rwanda, il est compté comme un millionnaire. Il dépense là-bas. Mais ici au Congo. Maintenant, vous voyez que le Congo boit puisque les gens qui ont des moyens n'ont pas la volonté.
Bien, merci. Merci, Isaïe, d'avoir appelé depuis Mouéka. Monsieur Guy Kanjemba, à vous la parole.
Oui, bon, c'est beaucoup de choses à la fois. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, quand les gens disent qu'il y a des COP, je pense qu'ils sont conscients qu'aujourd'hui, il y a un débat. Je me souviens qu'il y a 5 ans, Radio Capi ne peut pas organiser ces discussions. Donc, il y a une évolution positive par rapport à ce que vous appelez chaque fois des COP, qu'est-ce que le pays gagne. Le pays gagne en termes d'information, en termes de débat et en termes de prise de conscience avec toutes les questions qu'on vient d'avoir. On vient d'avoir une vingtaine de questions pertinentes par rapport à ça. Et que donc, je crois que ces COP ont été utiles pédagogiquement pour que nous puissions comprendre au niveau des enjeux mondiaux. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que nous ne sommes pas un pays isolé. On ne parle pas de la biodiversité de la RDC, on parle de la biodiversité mondiale. Ce sont des questions qui sont transversales, qui touchent toute la nation, toute l'humanité. Et que donc la discussion n'est pas de s'isoler comme si on était un pays comme la RDC là et de commencer à réfléchir en autarcie.
Et on a dit, bon, nous sommes le pays solution.
Oui, quand même. C'est là où je voulais répondre à mon co-débatteur, à mon ami tout de suite là, pour lui dire, nous avons besoin de l'argent. Et là, ce n'est pas de l'argent qu'on va quémander, c'est un droit. La mobilisation des ressources, il y a deux choses. Des choses, soit on a les ressources, on a toute la biodiversité, c'est déjà en termes d'argent, il faut demander ceux qui achètent les okapi pour venir aux États-Unis, ils payent combien. Il faut voir ceux qui vendent les ivoires, ils en vendent à combien pour vous dire que nous avons déjà, on ne va pas demander l'argent, on demande de nous appuyer pour que nous puissions poursuivre notre engagement ou ce que nous avons eu comme de la bénédiction de Dieu pour que nous puissions continuer à protéger la biodiversité ou la diversité biologique.
Madame Claudia a dit, après Glasgow, il a été décidé que 1,5 milliard sera donné à la RDC pour la protection de l'environnement. Elle veut savoir où est-ce qu'on en est avec ça.
Encore une fois, où est-ce qu'on en est? Nulle part, parce qu'on a, à Charles Maché, qu'on a, on n'est plus revenu sur ça. Et comme je disais, les discussions, quand on parle de chiffres, c'est très facile à la dernière minute de chaque COP qu'on puisse dire on a fini. Accord historique, tout le monde applaudit.
Mais en réalité,
on n'a pas besoin de plusieurs accords historiques ou concrets parce que quand on crée un accord, c'est-à-dire quoi, il faut encore du temps pour le construire. Mais il y a des choses qui ont été construites à Paris. À Paris, on avait déjà balisé certaines grandes choses. On a demandé aux pays de travailler. Tous les pays ont traversé leurs CDN, nous en avons aussi. Et après, on n'en parle plus.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de suivi
accords. Où il n'y a pas de suivi, il y a une mauvaise volonté de continuer à distraire l'humanité. Et c'est qu'on va dire que ce n'est pas le problème de la RDC, c'est le problème des pays du Sud. Aujourd'hui, nous nous félicitons aujourd'hui d'avoir entendu l'engagement qu'a pris le gouvernement de la RDC pour créer les blocs des trois pays du bassin sur la question de carbone, par exemple. Vous voyez, c'est déjà une bonne chose quand les pays, l'Indonésie, le Brésil, la RDC sont conscients qu'il faut se mettre en bloc pour imposer leur vision du marché de carbone au niveau mondial. C'est déjà quelque chose. Donc, on doit aussi travailler en amont, comme on dit, et faire notre partition.
Et tout à l'heure, M. Baudouin a dit qu'on doit arriver d'abord à faire l'inventaire de notre forêt. On doit avoir une cartographie, savoir qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Alors, on peut dire qu'on est un pays pays solution, on réclame des fonds, mais s'il n'y a pas d'inventaire, c'est compliqué.
Je n'aime pas revenir ce débat des scientifiques. Nous avons un pays, nous avons l'INERA, nous avons la DIAF, nous avons des universités, nous avons des étudiants, nous avons des ingénieurs qui ont été formés à l'université ailleurs. Et souvent, c'est ce qu'on nous présente. Quand on ne veut pas avoir une réponse claire pour la RDC, on dit qu'il n'y a pas d'expertise là-bas. Et ça, il faut quand même que nous, Congolais, on quitte dans ce débat-là. On doit quitter dans ce débat-là parce que moi, j'ai dit, moi, je travaille avec la communauté. Quel est cet expert international qui peut faire l'inventaire dans la forêt plus qu'un peuple autochtone? Il vendait avec le bagage pour me dire que si on le donne 30 jours, il peut m'identifier tout ce qu'il y a dans la forêt comme biodiversité dans moins de 30 jours à la même vitesse qu'un pygmée dans la forêt. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pas ça le vrai débat. C'est pas ça le vrai débat, c'est que nous avons nos ressources. Nos ressources sont identifiables, sont connues. Nous avons des communautés qui vivent dans ces forêts-là, qui peuvent facilement vous identifier tout ce qu'il y a comme biodiversité, tout ce qu'il y a, et vous pouvez venir chercher un insecte, par exemple, vous pouvez faire deux mois, vous ne le verrez pas. Ouais. Mais l'autochtone vous dira, vous êtes venu au mauvais moment.
Ouais.
Il faut revenir 3 ans après, vous allez le voir. Et que donc, à ce moment-là, il faut que le débat qu'on puisse éviter d'aller nous fragiliser au niveau international pour dire qu'on n'a pas de données, que voilà, dans ces pays, tout ça. Je crois que l'essentiel est là, qu'il faut qu'on puisse faire un travail maintenant plus pratique, disons, c'est pas on appelle ça un plan d'investissement ou des documents bancables qui permettent à ce qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on fait avec le moyen, quels sont les engagements que faisons. Et après, ça va revenir la question de gouvernance qui est une question traditionnelle qui nous gangrène partout. Tout le temps.
Mais parce que les partenaires peuvent dire on va donner cet argent à la RDC, mais il y a, comme vous l'avez dit, la question de la bonne gouvernance qui se pose.
Ah, oui. C'est à ce niveau-là, les débats, nous les faisons toujours pour discuter avec eux comme société civile par rapport aux garanties. Nous avons aujourd'hui un fonds national RED. Vu ces discussions-là très pertinentes, nous avons demandé à ce qu'on crée un fonds un autonome, indépendant, qui est un peu multipartite, où on a un regard global. C'est possible de trouver une solution à ça, parce qu'on ne va pas dire qu'on va arrêter. On cherche des solutions pour éviter le dérèglement climatique. Et les gens, celui qui a la solution, on dit non, il faut qu'Arago soit gouverné. Bon, on attend 50 ans qu'elle soit gouvernée, on verra ce que deviendra l'humanité. Mais ce n'est pas ça la vraie solution. La solution, c'est de dire qu'est-ce que nous faisons ensemble. La société civile, les parties prenantes, tout le monde, qu'est-ce que nous faisons ensemble pour que nous puissions garantir une certaine gestion transparente des financements qui seront mis.
Je pense que les bailleurs attendent cela.
Oui, mais
garantir.
Moi, je pense qu'il y a déjà. Une initiative pilote avec le Fonared, avec les 200 millions qui étaient là et les 500 millions qui sont en cours. C'est l'initiative pilote. Moi, je n'ai pas vu là où on a crié qu'il y a eu un détournement comme on l'a entendu ailleurs dans d'autres départements du gouvernement.
Ouais. Donc, les partenaires ont besoin de plus de garanties par rapport au financement, etc. Et certains disent qu'il faut recourir aux ressources internes.
Ouais, c'est toujours.
Au niveau interne.
Les ressources internes, c'est toujours important parce qu'il faut pas tout attendre de tout le monde. On se présente toujours comme on est en train d'attendre même ce qu'on peut mobiliser sur place. Je crois qu'il y a un effort aussi là-bas à faire à notre niveau pour que nous soyons conscients que nous devons aussi nous présenter dans les négociations avec quelque chose dans notre judiciaire. Il faut pas venir comme ça pour vous attendre les tout pour tout. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que comme vous dites là, c'est difficile de parler des ressources internes dans ce pays. Parce que, comme on venait de dire, on parle de salaire. Toutes ces ressources internes-là, on parle de milliards mobilisés, mais ça disparaît. On les mobilise et puis on les dépense dans des salaires mirobolants déjà. Alors, c'est pas si on va arriver un jour à régler cette question. Voilà,
le train réduire les trains de vie.
Ah oui, par exemple. On aurait beaucoup plus de ressources si on réduisait les trains de vie.
Des institutions de la République. Ouais. Bien, Orsène veut savoir quel est le niveau de notre biodiversité, comment lutter contre la perte de la nature, etc. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, nous avons un écosystème qui est très riche en biodiversité. La richesse en biodiversité est reconnue à tous les niveaux. Donc nous avons tout. Peut-être là, les gens reviennent toujours sur la question de la définition qui est difficile de la biodiversité, de la biodiversité biologique. C'est simple, c'est qu'on a au niveau de la Terre, au niveau de la RDC, on a des espaces où il y a des systèmes, on a la faune, la flore, on a les eaux douces, les Ramsar, on a des forêts, Et tout ça mis ensemble constitue un mécanisme de, disons, un écosystème qui fait en sorte qu'il y ait des équilibres partout là. Et c'est là, c'est à ce niveau-là qu'on parle de la protection de la biodiversité pour éviter qu'il y ait des déséquilibres qui en même temps peuvent perturber et le climat et les espaces halieutiques, le poisson et tout le reste. Et encore, en plus, même les animaux qui vivent dans aux alentours.
Aux alentours. D'accord. Monsieur Ginka Jemba, coordonnateur du groupe de travail climat Red Plus, merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup, Jedi.
Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger.
Oh,
et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi.
Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux.
J'étais celle de tes rêves, celle qui comble tes nuits, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses.
Regarde comment je souris, regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux.
Fidèles auditeurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Alain Goya a assuré la mise en onde, Marcel Ngombo à la coordination, Tati Mapoukou a été à la réalisation, au micro jeudi Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.